je veux juste vous dire que oui, aujourd'hui, pour bien du monde, on dit enfin, bonne nouvelle. Honnêtement, peut-être que c'est l'histoire et c'est le temps qui nous le dira. Mais oui, que Donald Trump sacque son camp de la Maison-Blanche avec les frasques des dernières semaines, c'est le temps, là. C'était urgent même que ça se fasse. Par contre, est-ce que l'arrivée de Joe Biden est, oh, enfin un sauveur, comme quand, mettons, Patrick Roy arrive avec le Canadien? Pas certain qu'on est dans la même gamme non. de sauveurs.
Ou quand Stéphane arrive au 93, mettons.
Non, je me prends pas pour moi. Non, peut-être dans la lifeguard, moi. Donc, pour en parler avec nous, elle aurait dû être les deux pieds sur le gazon à Washington devant cette balustrade de gens importants et où elle aurait passé une superbe journée. Mais non, elle est chez elle, dans la région de Montréal, je crois, et elle est notre chroniqueur politique américaine, Valérie Beaudoin. Bon matin, Valérie.
Bonjour.
Tu vas bien?
Oui, je vais très bien, mais oui, j'aurais aimé avoir les deux pieds dans le gazon du National Mall, là, je te dirais aujourd'hui.
Oui, mais là, on a mis des petits drapeaux à ta place.
Ben voilà, je suis représentée.
Hey, mais t'es allée déjà, par exemple?
Oui, moi, j'étais là il y a 4 ans pour la sermentation de Donald Trump. Donc, j'étais là la veille quand il y avait les premières, je dirais, manifestations de partisans. J'étais là la journée même où il y a eu justement une messe. Il y a toujours une messe un peu protocolaire en matinée. Donc, j'étais à l'extérieur là. Après ça, au National Mall. Donc, vraiment, la cérémonie de la sermentation avec toute la sécurité qu'il y a autour. Après ça, il y avait des manifestations. Et le lendemain, c'est la fameuse marche des femmes il y a 4 ans, là. Okay. Alors, vraiment, c'était un beau moment à vivre quand même.
Bon, mais là, moi, je veux savoir, avant qu'on passe dans le sérieux du sujet, est-ce que tu es déjà venu au Festival d'été de Québec?
Non.
Bon, mais non, t'sais, un festival de musique extérieure, mon point est, quand t'es à l'assermentation d'un président comme ça, tu sais, puis je le sais que la politique puis le monde de spectacle, mais pourtant, là, c'est les Américains, puis c'était des centaines de milliers de personnes qui sont... C'est-tu festif? Est-ce qu'ils vendent de l'alcool? Y a-tu des kiosques à hot dog? Y a-tu... est-ce que ça ressemble d'un party ou si c'est vraiment, vraiment... Tu sais, là, tu me parles d'une messe avant, là. Ça part pas fort comme party, là, oui. Mais... ça se vit comment sur place?
C'est très traditionnel, hein?
Oui, absolument.
Bon, ben le matin, le party de la messe, ça, on va mettre ça de côté. Mais c'est vrai que c'est une fête, c'est une célébration. Donc moi, comment j'ai vécu ça, je vous dirais que c'était particulier il y a 4 ans parce que Donald Trump, avant même d'être assermenté, c'était déjà controversé. Fait que t'avais d'un côté des partisans de Donald Trump qui étaient là au National Mall, qui étaient sur le party, ils étaient super contents d'être là avec les casquettes Make America Great Again, les pancartes. Oui, ils vendaient des hot dogs. Je me rappelle en avoir pris un avec un café. Alors, ça se passait au National Mall. Il y avait des familles. Donc, c'était pas juste le partisan typique qu'on se dit. C'était familial aussi. Mais tu avais de l'autre côté des gens qui étaient là de façon pacifique, je dois le dire quand même. Sinon, ils n'auraient pas pu rentrer sur le National Mall. Mais avec des pancartes contre Donald Trump. Donc, on avait un peu cette dualité-là. Et je vais devoir dire que Donald Trump a menti parce qu'il n'y avait pas tant de monde que ça. Par contre, ça, c'est vraiment la vérité. J'étais sur place. Alors, il y avait de la place pour circuler, donc c'était festif, mais pas autant que je pensais parce qu'on n'était pas tassé justement comme dans un concert, mais il y avait une belle ambiance. Donc, c'était le fun de voir aussi que les partisans du président, c'était pas juste un type de personne. Il y en a vraiment de tous les genres et on le voyait déjà là cette première journée de sa présidence il y a 4 ans, jour pour jour.
Bon, pour plusieurs, c'était une journée très attendue. Biden rentre en poste dès aujourd'hui, donc après cette inauguration. Moi, j'ai pas l'impression que Biden est un sauveur, puis que je pense pas que les États-Unis peuvent se dire maintenant, hey, on est sorti du bois, on est sorti là de ce cauchemar de 4 ans. Je suis pas certain qu'ils puissent affirmer ça aujourd'hui.
Non, je pense pas que c'est un sauveur, mais je pense qu'il est là un peu pour défaire. Il est là, il y a 4 ans, on va dire ça comme ça, pour défaire ce que Trump a fait. Je vais dire ça le plus simplement du monde possible, dans le sens que c'est pas lui qui va nécessairement révolutionner certaines choses, et il est pas là pour ça. C'est pas pour rien, justement, que c'est un candidat qui a pas soulevé les passions, qui est pas un Barack Obama de ce monde. Donc, c'est pas le plus grand des orateurs, c'est pas la personne avec le plus grand charisme non plus. Mais on l'a mis là parce qu'on le sait qu'il va faire uniquement un mandat. Donc, c'est pas grave s'il tient pas toutes ses promesses, entre guillemets. Il va faire ce qu'il a à faire. Dès le premier jour, il va défaire énormément de choses que Donald Trump a fait, comme Trump l'avait fait pour Obama. Ça, c'est un peu pratiquement la tradition de le faire. Donc, il est là pour ça. Il est là pour préparer le terrain pour la personne qui sera justement cette espèce de sauveur démocrate dans 4 ans. Est-ce que ce sera une sauveuse? Est-ce que ce sera une sauveure? Est-ce que ça sera Kamala Harris? On verra, parce qu'elle va être sa vice-présidente. Et je pense qu'elle a beaucoup, beaucoup encore d'aspirations à être présidente des États-Unis un jour.
Bon, ben sûrement, mais en même temps, elle va devoir prendre plus de place qu'on voit les vice-présidents le faire. Tu sais, bien souvent, on les voit justement à la sermentation, mais pendant les années de gestion, en tout cas, de l'extérieur, le vice-président, parce que ça a toujours été des gars, je crois, Mme Palin, mais en tout cas, peu importe, le vice-président est dans l'ombre, puis beaucoup dans l'ombre du président.
Oui, il y a déjà eu des candidates à la vice-présidence, mais une vice-présidente, c'est vraiment la première fois que c'est une femme, là, okay, qui se rend jusque à la Maison-Blanche. C'est la toute première fois aujourd'hui. Mais il y a un peu, là, j'utilise toujours cette expression-là, il y a des vice-présidents plantes vertes, alors qui sont là dans le décor en arrière pour plaire à une certaine frange là de, disons, de l'électorat. Puis t'en as d'autres qui sont beaucoup plus actifs. Mais ça, c'est le président qui décide. Il décide combien de pouvoir il donne à sa vice-présidente ou à son vice-président. Et dans ce cas-ci, il l'a déjà dit que Kamala Harris allait être très, très, très présente dans toutes les décisions à prendre. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il va lui donner beaucoup de responsabilités. Puis, on l'a vu avec l'exemple de Donald Trump qui a quand même donné l'équipe de lutte à la pandémie. Il a donné ça à Mike Pence. Donc, ça, c'était lui donner une responsabilité. Des mauvaises langues vont dire un peu qu'il lui a donné aussi le problème si ça fonctionnait mal. Mais c'est le président qui décide à quel point la vice-présidente, dans ce cas-ci, va avoir du pouvoir et va avoir de choses à faire.
OK. Ça commence à quelle heure? Ça se déroule comment aujourd'hui, là, toutes ces choses-là? Puis, tu sais, là, Lady Gaga, ça m'intéresse. Fait qu'imagine-toi comment je suis intéressé par ça. Qui, Larry, tu dis?
J-Lo.
J-Lo aussi, c'est vrai. C'est vers quelle heure, tout ça, là, ça se déroule comment aujourd'hui?
Bon, ça va commencer surtout vers 11h. Les diffusions sur les grandes chaînes américaines, ça va être autour de 10h30, mais à 11h, on va avoir justement l'hymne national par Lady Gaga, des bénédictions parce que c'est très, très religieux et traditionnel, comme je vous disais tantôt. On va avoir une jeune poète de 23 ans, ça c'est intéressant, 22 ans, pardon, une jeune afro-américaine activiste qui a aussi fait un poème, qui a gagné des prix, et elle avait du bégaiement, comme Joe Biden, elle souffrait de bégaiement, elle a surmonté ça, donc elle va quand même parler devant des millions de personnes aujourd'hui, donc je trouve que c'est une belle symbolique. Et à midi, c'est la main sur la Bible, on prête serment et il deviendra officiellement à midi le 46e président des États-Unis. C'est donc dire que Donald Trump est président jusqu'à 11h59 secondes.
Bon, alors, et là, après ça, là, il va, on le verra pas, Trump, aujourd'hui, on l'entendra pas, il va prendre son trou.
Ben, il a fait son discours d'adieu hier qu'il a mis sur YouTube. Donc, déjà hier, il a réglé un peu tout ça, là. Il s'est dit, c'est terminé. Dans son discours, il disait, mission accomplie. On a fait ce qu'on avait à faire. Je voulais rendre la grandeur à l'Amérique. J'ai choisi les batailles les plus difficiles. J'ai pas été à la présidence, il a dit, pour me faire aimer ou ne pas être controversé. Donc, je pense qu'il avait raison dans ça. Il a pas choisi des choses qui étaient nécessairement faciles ou qui étaient simples. Il a pris des dossiers assez difficiles dans les 4 dernières années. Mais il a dit que c'était pas la fin, justement, de son mouvement. Donc, il y avait un peu, à la fin, une petite porte ouverte à dire qu'on va le revoir. Mais aujourd'hui, il va quitter. Il va avoir une cérémonie à la base Andrews, où il va prendre Air Force One pour la toute dernière fois et se rendre à Mar-a-Lago, là, dans son domaine en Floride.
Est-ce que, avec cette sortie-là, hier, quand même, assez posée, là, tu sais, je veux dire, il a pas mis de gaz sur le feu hier, là. Il a gardé ça calme. Est-ce que ça veut donc dire qu'il vient d'effacer les risques de débordements majeurs, je sais pas qu'il n'y en aura pas, là, mais des débordements majeurs aujourd'hui?
Je pense pas que ça les efface tout à fait, dans le sens qu'il y a toujours une interprétation, puis je vois sur les réseaux sociaux après comment on interprète le message du président, parce que tu as bien raison de le dire, il était beaucoup plus présidentiel, je l'appelle la version Trump télésouffleur, là, la version posée, calme, pas la version de rallye. Il a dit bonne chance à ses partisans, donc là il y en a, je voyais sur les réseaux sociaux dire, ah parfait, il nous a dit bonne chance, donc ça veut dire que si on fait quelque chose, il nous encourage. Donc on peut toujours, ce qu'on dit en bon français, le twister les mots comme on veut, mais oui, ça apaise, c'est pas un appel comme on avait il y a deux semaines à dire faites un soulèvement populaire, presque ça qu'il a dit là. Donc oui, ça apaise. Est-ce que ça va être assez? Moi, aujourd'hui, ce que je regarde, ça sera pas tant Washington, oui, pour la sermentation, mais les menaces, je vais les regarder aussi ailleurs aux États-Unis où c'est moins justement gardé, c'est moins sécurisé. Puis imaginez là que il y a des membres de la Garde nationale qui ont même été écartés parce qu'on a fait une double enquête et on a vérifié qu'il y avait peut-être des liens avec des groupes d'extrême droite, même si c'est un lien lointain. On a dit on prend pas de chance, on va les écarter. Et il y avait aussi la peur que des membres de la conspiration QAnon derrière cette conspiration-là se déguisent en membres de la Garde nationale, imaginez, pour joindre les rangs pour faire une autre attaque. Donc on est vraiment très très loin là, un peu dans la paranoïa, mais avec raison de ce qu'on a vu là il y a deux semaines.
Est-ce qu'il y a une tradition, Valérie? C'est-tu une légende que le président, quand il sort, il fait construire une bibliothèque quelque part? C'est-tu une légende, ça, ou ça existe?
Non, il y a vraiment des bibliothèques présidentielles dans les États natifs. Donc, il y a la bibliothèque présidentielle de George W. Bush au Texas. Il y en a une de Barack Obama, donc dans la ville de Chicago, en Illinois. Donc, oui, il y a les bibliothèques présidentielles. J'ai hâte de voir Donald Trump, parce que ça sera en Floride, parce que maintenant, son adresse est en Floride. C'est plus dans l'État de New York. Fait qu'il, oui, il devrait avoir sa bibliothèque présidentielle qui est financée, entre autres, aussi par des donateurs. Là. Il devrait y avoir une construction de ça, normalement.
Mais en même temps, vous prenez pour acquis que ce soit une bibliothèque, mais ça peut être un club de danseuses, tu sais, on sait jamais, tu sais, lui. Ça peut virer de tous les bords. Alors, moi, je pense pas que ça va éclater aujourd'hui. Je vois que, mais je comprends très, très bien qu'on ait mis les précautions au maximum pour ce changement de garde-là, qui est un changement quand même majeur pour nos voisins du Sud aujourd'hui. Alors, on va suivre ça avec intérêt. Moi, la seule chose qui me bug, Valérie, puis que, écoute, je comprends même pas qu'en 2021, on soit encore là, puis qu'eux, ils se regardent pas en se disant, OK, ça existait il y a je ne sais pas combien d'années, là. C'est quoi cette affaire-là de gracier 100 personnes condamnées pour la justice, par la justice, d'actes criminels qu'ils ont commis? Et là, ça peut aller du meurtre ou même de meurtre multiple à n'importe. C'est quoi, ça a plus de bon sens que ça existe encore, puis pas parce que c'est Donald Trump qui va le faire avec 100 personnes aujourd'hui, tous les autres l'ont fait avant lui. Pourquoi que ça existe encore, et est-ce qu'il y a du monde qui se soulève en disant, ben voyons donc, ça va-tu arrêter cette tradition-là complètement dépassée?
C'est parce que le problème, c'est qu'il y a pas de, règles entourant tout ce qui est de gracier, de pardonner, de commuer des peines. Donc, tant que c'est un crime fédéral, donc tant que c'est un crime qui est au niveau fédéral, on peut pardonner quelqu'un, on peut le gracier, mais il y a pas de limite parce que dans certains cas, je peux dire que ça a été bien utilisé. Exemple des gens, là, il y a des années, si on avait une petite possession de cannabis, ben il y avait beaucoup d'exemples des Afro-Américains qui ont été ciblés comme ça pour être dans les prisons, ben de leur dire écoutez, c'est pas normal qu'ils soient, je sais pas, 20 ans en prison pour un crime que ça aurait dû être quelques mois. Donc on a commué les peines, ils ont pu sortir de prison plus rapidement. Ça c'est un exemple où ceux qui avaient qui voulaient pas aller à la guerre au Vietnam, qui s'étaient cachés, donc à un moment donné, on a dit ben écoutez, vous aurez jamais de poursuites, c'est terminé, on vous pardonne de ne pas avoir voulu participer à la guerre. Donc dans ces cas-là, ça va, mais dans le cas de Donald Trump, le problème, mais ce qui choque les gens, et c'est pas le premier, hein. Bill Clinton a aussi eu des pardons controversés, c'est qu'il va choisir des gens autour de lui. Donc, c'est comme donner un peu des nananes, des cadeaux à des gens qui ont été fidèles. Et c'est là que ça dérange, parce que normalement, ça devrait être monsieur, madame, tout le monde qui fait une espèce de pétition en disant « Moi, dans mon cas, je devrais être pardonné parce que X, Y raison. » Et le président évalue ça. Mais là, c'est pas le cas. On pardonne des gens qui ont quand même fait beaucoup de fraude. Son conseiller, Steve Bannon, juste pour vous donner un exemple, lui, il aurait détourné des fonds pour la construction. Imaginez, il avait fait une levée de fonds pour la construction du mur avec le Mexique et il aurait détourné des fonds pour ses achats personnels, donc des millions. Et là, il est pardonné, donc il n'y aura pas de procédure judiciaire contre lui. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres.
Mais il n'avait pas été condamné encore, de ce que je comprends.
Non, on peut pardonner, donc justement qu'on sait qu'il y a un crime, une accusation. Sinon, si la personne est déjà en prison, il y a deux façons de faire. On peut commuer la peine, ça veut dire s'il restait 10 ans, la personne a purgé derrière les barreaux, mais on efface les 10 dernières années, la personne peut sortir. Et quand c'est pardonné, c'est qu'il n'y aura même pas rien au dossier. Il n'y a même pas de tâche à son dossier criminel. Okay. Ça va encore plus loin.
Mais des criminels dangereux, est-ce que dans le passé, il y en a qui ont été remis en liberté? Des crimes plus graves que de la faute?
Non, parce que c'est des crimes au niveau fédéral. Okay. Donc, quand c'est un État, exemple, où, tu sais, il n'y a pas eu j'ai rien qui me vient en tête de quelqu'un qui est meurtrier. C'est plus des crimes, là, de col blanc, comme on appelle, là, des gens, justement, qui ont fait des crimes financiers, des détournements, des fraudeurs. Dans le fond, quand t'es quelqu'un puis t'as un nom de connu, t'as plus de chances aussi de te faire gracier. Julian Assange aussi, qui est loué à, justement, qui est lié plutôt à toutes les fuites d'informations de la sécurité américaine. Lui aussi pourrait être gracié, aujourd'hui, si on ajoute des noms, mais, surprise, Trump a choisi de ne pas gracier d'avance, parce qu'on peut faire ça, hein, de façon préventive, il a choisi de pas le faire pour ses enfants, ni pour lui-même, il aurait pu tenter de le faire.
De se protéger lui-même, ce qui aurait pas été surprenant en même temps, selon le style de la personne.
Non, exactement.
Alors, merci beaucoup, Valérie. C'est une grosse journée pour toi. Je vais te laisser aller, puis on va se reparler bientôt. On verra là, quel aura été l'impact. Et s'il y a des débordements, évidemment, là, ça va accélérer le fait à ce qu'on se parle plus rapidement. J'ai bien hâte de voir comment ça va se passer. Et tu l'as bien spécifié, faut avoir un œil ouvert à travers tous les États-Unis, parce que c'est pas nécessairement à Washington qu'on peut avoir les plus gros coups d'éclat. C'est ce que je comprends. C'est exact?
Oui, exactement.
Merci beaucoup, Valérie.
Merci, bye-bye.
Au revoir. Valérie Beaudoin, notre analyste politique sur la politique américaine pour le groupe Cogeco Média. Donc, une grosse journée aujourd'hui. Vous allez regarder ça, les amis, dès 11h ce matin.
J'ai beaucoup de difficultés. Excuse-moi, je t'ai coupé bien raide.
Oui, vas-y, c'est toi l'Américain.
Oui.
Vas-y, l'Américain.
La beauté et l'âge avant tout le reste.
Je vais jeter un coup d'œil, c'est sûr.
Ouais.
C'est big, ça, là.
Ouais. De la difficulté, moi, à accrocher sa politique américaine, on dirait que, sans dire que ça me laisse indifférent, je trouve qu'on a plein nos pattes ici, puis en même temps, c'est tellement différent aussi, c'est dur à suivre un peu.
Moi, je ne sais pas comment je vais faire ça, Pascal, tu vas sûrement regarder ça un petit peu.
Oui, c'est sûr. Puis il y a des affaires qui ont passé entre deux chaises hier, puis je vais t'en parler tout de suite, là. Je vais t'en parler dans un tour de table. Mais on va plus avoir de temps en ce moment. Là. Parmi les personnes graciées et ceux qui avaient fait des demandes, il y avait quand même 100 personnes qui avaient payé pour être peut-être graciées par Trump.
Gracias.
Là-dedans, il y avait Lion King, Joe Exotic, qui est en prison, qui voulait se faire gracier. Il a attendu toute la journée, puis il était sûr, lui, il sortait de prison. Hein. Il y avait sa limousine en avant de la dite prison pour sortir, puis il disait, première chose que je vais faire, je vais aller me faire couper les cheveux, après ça, je vais manger une pizza, j'ai hâte de sortir d'ici. Il dit, chercher de la pizza, des steaks, peut-être mettre un McRib. Il était vraiment craqué, lui, il était sûr qu'il sortait. Joe Exotic, finalement, zéro dans la liste, là, on l'a écarté complètement. Mais je regardais la liste des gens.
Lui, il est en prison parce que ça a été, puis on va en parler tantôt de Netflix, là, mais ça a été probablement la série la plus regardée sur Netflix. L'as-tu écouté, Tiger King?
Non.
C'est vraiment capoté. Là. Puis je sais qu'à travers le monde, c'est la série la plus écoutée parce que il y a des pays où le Netflix c'est beaucoup moins populaire, puis les épisodes ou les séries sont moins traduits dans une langue, tu sais, un peu plus rare. Mais Tiger King a été, écoute, c'était planétaire.
On dirait une blague, là, tout au long de l'émission.
Comment?
Ça accroche, là. On dirait que c'est une joke, là, tout ce qui se passe, là.
Mais c'est une joke, mais quand tu réalises que c'est vrai, que c'est un vrai, puis qu'il est fou de même, tu te dis, voyons, ça se passe pas de bon sens. Alors, lui, il est en prison pour combien de temps, là?
C'était 22 ans de prison pour avoir voulu faire tuer sa rivale, là, Carol Baskin, et pour avoir abattu certains de ses propres tigres, là.
Elle est encore en vie, Mme Baskin.
Elle est là.
Ouais, mais elle, on n'est pas sûr non plus de l'enlignement que ça. L'équilibre est le bon terme. On est loin d'être certain de son équilibre. Fait que là, lui, ça n'a pas marché.
Ça n'a pas fonctionné. Puis je regardais la liste, je trouvais ça super intéressant de qui a fait une demande, puis qui a été... Bon, c'est sûr, t'as Steve Bannon, là, 66 ans. On a parlé avec Valérie, là, un des artisans de la campagne présidentielle victorieuse de Donald Trump. Il y a aussi son ancien collecteur de fonds, Elliot Brody, j'espère que je dis bien, qui était poursuivi pour une campagne de lobbying illégale.
It works.
Mais celui qui a attiré mon attention, c'est le rapper. Il avait dit qu'il y avait des rappers qui voulaient se faire gracier. T'as Lil Wayne là-dedans qui avait plaidé coupable le mois dernier pour possession d'une arme à feu, délit pour lequel il risquait jusqu'à 10 ans de prison. Lil Wayne, là, vous entendez, Lollipop. Ouais. Je pense pas que c'est une affaire de suçon d'Halloween, là, ça tourne. Je dirais, il chuchote à Like That tout au long de la chanson.
Il a été gracié, lui.
C'est pas un homme que je présenterais à mon père, M. Wayne.
Ah non, c'est pas un...
Il a pas l'air d'avoir juste fait ça dans sa vie. Là, okay. Il s'était fait pogner pour ça le mois dernier.
Y a-tu les culottes comme en bas des fesses?
Oui, il y a le... Oui.
Tu l'entends qu'il y a un tas dans le fond, hein?
Tu l'entends quel bruit il fait déjà en partant?
Ouais. Okay. C'est explicite écrit à côté de toutes ses chansons.
OK.
Yo, man.
Ouais. Fait que... chanson qui s'appelle Out to Love aussi, les loin. Pas okay. sûr, je me baserais sur ses conseils.
J'ai aucune idée, c'est qui. Je suis pas, non.
Hyper populaire. Ah oui? Il y a rangé dedans en métal, là. Ça va avec le look. Grosse rasta, tatou d'en face. Tatou... Je sais pas si je suis un préjugé, mais c'est ce qu'il me présente okay, comme okay. portrait, là. Il a fait des collaborations avec Eminem, 50 Cent. C'est un autre connu aussi pour l'histoire d'amour. Okay. Vraiment sans tâche.
Un grand champion.
Oui, oui, oui.
Alors, voilà pour les gens qui avaient demandé à être graciés par le président Trump.
On nous dit Kodak Black aussi. Ce serait un autre rapper.
Okay.
On nous pose la question aussi par texto. Et si on pouvait faire la même chose au Canada, qui serait gracié?
Ben là, en même temps, on est dans des crimes fédéraux.
Ce serait au fédéral, effectivement. Ce serait Trudeau, donc, à la suite de son mandat ou quand il partirait.
C'est ça, Nathalie Normandeau. Puis toi, si ça n'avait pas été réglé, les autres, ils auraient tout été graciés.
La commission
Champagne au
complet.
C'est ça. Puis M. Trottoir.
Scandale des commandites, puis envoie donc.
C'est ça. Là, mais, M. Lafleur, là, l'ingénieur, il n'était pas encore en prison, lui, où il a fait un bout. Là, en tout cas,
Tony Accurso, il aurait-tu été gracié?
Tony?
C'est le premier salaire.
Il aurait payé,
puis il aurait dit, venez faire une raide de bateau. Hein? J'ai un bateau, moi, de 50 millions. Venez faire une petite raide de bateau. Tu n'as pas besoin de ramer quand tu es avec moi en bateau.
Mais moi, hier, là, quand ils nous ont dit qu'ils passaient les 400 000 morts aux États-Unis, là, ouais. Ça m'a frappé. Parce que 400 000, là, des villes de 400 000, on en connaît beaucoup. Là.
Ben oui, absolument.
Nouvelle-Orléans, c'est 400 000.
Oui.
La ville de Nouvelle-Orléans, c'est 400 000 habitants. Ça veut dire que c'est une ville au complet qui est décédée à cause de la COVID.
Mais oui, c'est comme je t'ai dit là, sur la fin de la semaine passée.
Oui.
C'est surtout le step entre 200 et 400.
Ça a été rapide.
Hey, le 200, là, on a essayé de retrouver la date là, quand on en a parlé.
C'est pas longtemps avant les fêtes.
Je te le dis, ça doit être la semaine du 20 décembre à peu près qu'ils ont passé le cap des 200 000 morts. Puis ils ont doublé ça en un mois et un mois, peut-être un peu plus, maintenant deux mois, là. Ils ont doublé ce qu'ils ont fait depuis mars au niveau des morts de la COVID.
Ça, on peut mettre ça dans le bilan à Donald Trump.
Oui.
Parce qu'il était très négligent versus la COVID.
Mais malgré que, regarde, au Québec, on n'est pas négligent, mais on les bat par tête de pipe au niveau des morts. Tu sais, puis je me posais la question là pour la COVID-19, là,
oui.
Quand on va analyser ça plus tard, là,
oui.
Il va falloir se demander, est-ce qu'on a mal géré la COVID? Ou bien,
non, c'est notre depuis, système qui nous a
exactement, rattrapé. Depuis 1960-70,
oui.
Qu'on parque les vieux dans une cage à vieux, là. C'est ça l'erreur qui fait qu'on a battu tout le monde au niveau des morts.
Mais c'est une erreur, ça. J'en suis convaincu.
Non, mais si c'est l'erreur et plus dans la façon qu'on a géré les personnes âgées et malades.
Oui,
oui. OK, qu'est-ce qu'on a changé aujourd'hui?
Ben, les maisons des aînés sont déjà en construction.
Ça va prendre
dans
du temps
certains
à
cas,
ça.
Mais c'est
ouais, mais on est quatre nous ici, là, puis on le sait que c'est ça, là. Puis vous dites, ouais, mais y a-tu quelque chose que t'es vraiment annoncé? C'est fini, on va parquer les vieux tous dans la même cage?
Les maisons des aînés, là, c'est
il y en a une à Sainte-Foy qui a été annoncée par Marguerite Blais, mais tu sais, c'est en construction. Puis on a fait le move après la pandémie.
On s'en va nulle part. Qu'est-ce qu'elle a annoncé, Marguerite Blais, mettons? Une maison des aînés, mais c'est quoi, un 200 résidents, mettons?
Non, c'est bien moins. Les maisons des aînés, c'est beaucoup moins concentré. Là, c'est autre chose, c'est genre milieu de vie, là, avec beaucoup d'espace.
Vous souvenez-vous ce que Danny Carbonneau nous avait raconté en Australie? Lui, il vit en banlieue de Melbourne, là. Je vais prendre le mot anglais, des gate communautés, mais pour les personnes âgées.
Ouais.
Donc, c'est des gens de petits bungalows, c'est sûr que ça, il n'y a pas d'hiver, là. Fait qu'il n'y a pas de salage à creuser. Ouais. Fait qu'ils se font des gens de petites maisons.
Ouais.
Ils sont tous prêts les uns des autres. Bon, quelle est la différence? C'est que c'est extérieur entre les résidents. Fait que est-ce que une maladie ou une bactérie ou whatever quoi peut se promener moins le fait qu'ils soient chacun chez eux?
Ouais.
Peut-être. Ils sont moins en contact avec du personnel. Est-ce que les gens malades... Tu sais, mettons, là, les gens qui sont zéro autonomes, comment on fait ça en 2025 ou 2030? Ouais. Comment une personne âgée zéro autonome, on fait ça? Hey, si on les parque pas toutes à la même place, là, ça veut dire que ça prend...
De l'espace en...
Oui, puis ça prend du personnel à plus finir.
Celles qui sont annoncées,
c'est... Celle à Sainte-Foy, 96 places, dont 12 places destinées à des adultes qui ont des besoins spécifiques.
OK.
Puis c'est quelle date que t'as ça, Pascal? Parce que je pense qu'en juin, on a revu à la baisse pour certains endroits. En tout cas, on parle d'une cinquantaine de...
J'ai 17 juin pour moi.
Ah, ben c'est ça. On a une cinquantaine de résidents, finalement, au maximum, idéalement, dans chacune des... Il y en a 30 d'annoncés pour l'instant.
Mais mon texte, c'est
2022.
Juin.
Oui, c'est ça, exact.
Mais en tout cas, grosso modo, là, c'est juste dire, OK, ben là, est-ce que ça va de diminuer les nombres? Est-ce que ça va, ça pourrait diminuer d'une nouvelle bactérie plus tard, diminuer les risques?
Ben, tes zones rouges et chaudes deviennent moins chaudes parce que tu as moins de concentration de résidents. C'est un peu le principe de Montréal puis Québec, par exemple, quand tu compares.
Il faut qu'il y ait une analyse, quand ce sera fini, une analyse complète de tout ça.
Ben oui.
Parce que de revoir tout ça, puis de...
Après une enquête publique, Steph.
Puis en même temps, aussi, là, nous, on est à 9000 morts, ou 9100 quelques, là. Mais peu importe. Mais c'est pas que les morts sont pas importantes, mais sur ces 9000 personnes-là, ce serait le fun d'avoir des chiffres précis, de dire, par exemple, oui, mais mettons, un tiers avait moins de 6 mois d'espérance de vie. Mm-hmm. Tu sais, faut quand même mettre ça, parce que oubliez pas que d'isoler de plus en plus les personnes âgées pour les protéger, ça a un coût aussi. Et c'est pour ça que dans les années 70, 80, 90, on a construit des parcs à vieux comme ça. Mm-hmm. Puis ben aujourd'hui, là, ça nous nuit.
Une espèce de solution tout inclus, où on pense que ça va tout régler, puis des dizaines d'années plus tard, on s'en rend compte que non. Tu sais, la désinstitutionnalisation, c'est la même affaire. Là.
Ben, ça a été
c'est un autre processus, mais...
C'est peut-être été positif, finalement, la désinstitutionnalisation. Tu sais, ça a marché.
Ben, je suis pas sûr. Moi, il y a de la maladie mentale dans les rues pas mal depuis ce temps-là.
Oui, mais est-ce qu'il y en aurait moins? Je le sais pas. Là, mais...
C'est une bonne question. Mais ouais. Si je donne ça comme exemple, là, c'est plus dans le sens qu'il y a une espèce de gros mouvement là, unique, puis c'est la seule... Ça arrive pas. Il n'y a pas la solution à des problèmes comme ça. C'est...
Bon, on va s'arrêter. Il est 7h49. Mais on va revenir un petit peu au retour de la pause sur le COVID. J'ai quelques points que je veux mettre en lumière, mais très, très court.
Un éditorial?
Non, pas un éditorial. Juste quelques points comme ça. Bien d'autres choses. Donc, vous êtes au 93, dans Dupont le matin, et on est aujourd'hui mercredi, le 20.